Bonjour, je suis Claude Caer de l'association Mieux Vivre sur la Rive Droite. Je vous parle du Valéhir, c'est-à-dire la Longue Vallée, c'est un nom breton, parce que je suis née en 1940 dans le bistrot le Débit Vert, qui existe toujours et qui donc existait déjà à ce moment-là. Et donc, après, j'ai grandi juste à l'après-guerre, à ce qui est maintenant le numéro 100, route du Valéhir, en face des HLM. Mais les HLM n'existaient pas. Vous aviez les cuves à Bélec, qui étaient des cuves à Purin, et les paysans venaient avec cheval et voiture, donc une citerne sur la charrette, chercher le Purin là. Et c'était la ferme, c'était tenu par la ferme des Didou, qui exploitait donc cette ferme avec. C'était vraiment bon. Il y avait juste une petite ferme. Il y avait quand même vaches. Il y avait des canards, une mare et des canards. Alors on jouait là-dedans. Il y avait eu une fois, je me souviens seulement d'une fois, juste à l'après-guerre, ils ont fait un pâtage à l'ancienne avec les vieilles mécaniques. Ils appelaient ça mécanique. Et donc j'ai assisté à ça. Enfin, on était en pleine nature. Et le Valéhir était un chemin caillouteux. Et donc, à la place des HLM, vous aviez des tranchées, on a joué dans les tranchées, dans ce qu'on appelait le champ de fumier. C'était en fait un peu de tout. Il y avait même des voitures camouflées. On jouait là-dedans. Et un jour, un enfant, il avait 9 ans, il s'appelait Gibois, son nom de famille, et il est décédé. Et une grenade, il a joué avec une grenade, elle lui a éclaté dans le ventre. Et nous étions là-dedans, on jouait avec des choses de guerre, mais on ne trouvait pas ça triste, c'était la vie, c'était normal. Et d'ailleurs, on chantait tout le temps. Et on s'amusait là-dedans. Donc, il y avait un clochard qu'on appelait Jop ou Jopique, qui avait une jambe de bois. On s'amusait à l'embêter. Il avait fait une sorte de caverne d'Ali Baba dans le fond d'une des tranchées, en récupérant tout ce qu'il avait pu trouver de la guerre, et il vivait comme ça là-dedans. Et quand on allait l'embêter, eh bien, il enlevait sa jambe de bois et il nous tapait. Donc c'était le tram passait par là. Le petit tram qui amenait jusqu'au Conquet. Donc, c'était un lieu de promenade avant la guerre. Alors ça, on me l'a raconté, parce qu'évidemment, ça n'existait plus après-guerre. Et il passait donc sous l'arche, là où il y a maintenant le collège des Quatre Moulins. Et il y avait un peu plus loin, il y avait chez Tico's, qui était une guinguette, et où le tram s'arrêtait. Le tram s'arrêtait là où les gens voulaient aller boire un coup, tout simplement. Et après, il s'arrêtait aussi au Débit Vert. Et il continuait vers le Saint-Pierre-Quilbignon, le bourg de Saint-Pierre, pour aller ensuite au Conquet.
Alors, je fais partie avec mon camarade Michel, de... Bien vivre, mieux vivre sur la rive droite. Et nous occupons de tout ce qui est histoire de Saint-Pierre-Quilbignon, appelé Kerber. La butte qu'il y a devant vous a été érigée en 3 années de travail. Butte ou parc d'éoles ? Là est la question. Mais je vais essayer de remonter le passé sur les pas de mes souliers remontant dans le passé. Oui. Alors, 3 ans de travaux pour une butte. 2 millions de mètres cubes de terre amenés du bassin du Salou pour monter cela. Que de mal. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens que l'on dispose actuellement. Caractéristiques, hauteur de la butte, 35 mètres. 75 mètres au-dessus du niveau de la mer. On n'est pas prêt d'être noyé. Mais n'oubliez pas que le point le plus élevé est à Kerber, au bourg, et également au fort Montbarré, Malbarré, du fameux prince de Montbarré, qui n'avait de prince que de renom. Alors, 3 ans de travaux, et à quoi ça a servi ? À rien, car l'armement ayant évolué, la distance de tir n'était pas prévu pour les armes qui étaient à canon rayé, qui portaient à 3 km et non pas à 1600 mètres, comme c'était le cas au temps de la construction. Arrive un cavalier, eh oui, il est connu sous le nom de Pont Guédon, l'amiral de Guédon. Excellent marin, major de promotion, mais également intéressé par les chevaux. Alors, comme cette butte était inutile, il va créer le centre hippique de Brest. Il y aura donc ici un champ de course. Et évidemment, ça plaira aux gens environnants. Que dire de cet amiral ? Il a fait une guerre magnifique en 1870 et fut maintenu, malgré la chute de l'Empire, il fut maintenu en service. Mais Guédon est le précurseur de l'étendue de désenclaver la Pinfelle au sujet, à partir, si vous voulez, d'abandonner la Pinfelle et de faire le port de guerre qui va s'étendre de la pointe des Blagueurs jusqu'à la Grande Rivière, puis ensuite sur les quatre pompes. Il était en avant-garde pour l'époque. Que dire de Guédon ? Il reste le pont Guédon où, étant élève, pour aller au collège, il fallait passer par le pont Guédon. Le pont impérial, le pont national ayant été détruit par les forces allemandes. Ah, je reviens sur cette butte. Les Allemands, ils sont des gens concrets. Ils avaient installé sur cette butte un énorme projecteur. Et tous les avions Lancaster de Havilland qui venaient bombarder la ville passaient à la casserole et dans les faisceaux lumineux projetés par cet engin de guerre. Il y avait deux Victors à Brest. Un Victor Eusin et l'autre Victor, comment il, Michel ? Le Gorgeux. Victor Eusin était maire de Saint-Pierre. Le Gorgeux était maire de la ville, intramuros. Donc, tous les mouvements militaires se faisaient hors de la ville de Brest, et également l'événement de 1936, c'est-à-dire l'école navale qui est ouverte. L'école navale en pierre de taille, appelée le Versailles breton. Après les champs de course, arrive 1912. Il y a longtemps que Blériot a franchi la Manche. Arrivent les meetings aériens en 1912 et en 1914, quelques mois avant la déclaration de guerre, un certain Maurice Schall, rien à voir avec le général d'armée Maurice Schall, eh bien, il réussit, ce capitaine Maurice Schall, de faire Paris-Brest-Paris avec un arrêt buffet à Saint-Brieuc. Mais, entre-temps, il connaît son épouse qui était une guipavasienne. Si bien que plus tard, lorsque l'aviation va évoluer, eh bien, le terrain d'aviation du Polygone sera délaissé pour Guipava. Eh oui, c'est ça. Alors, que dire encore, Michel ?
Les baraques après-guerre.
Hein ? Ah, les baraques après-guerre. Il y avait les baraques du Bougain. Il y a ici le point du jour et les baraques du Polygone. Ah, que c'était bien. Ils avaient leur jardin. Ils avaient une belle vue. Ils s'entraidaient. Et une bonne mémoire aussi. Et le provisoire dure longtemps. Eh oui. Si bien que 20 ans après, il y avait encore les irréductibles Gaulois qui préféraient leur baraque de bois au HLM qui était sans âme. Je continue ? Ça vous intéresse ? Oui, alors, voilà. Alors, à savoir qu'il y a eu... Alors, dans le tram, c'est inaudible, madame. Gigonne butte, j'ai expliqué que ça a été réalisé en 3 ans et que c'était du travail nul. Par contre, maintenant, c'est le jardin des halls, pluvieux et venteux. Voilà. Nous prenons la direction pour le polygone et le stand de tir lourd édifié en 1934 d'une longueur de 300 mètres. Également, je disais que sur cette étendue de terrain de la marine, en 1945, 46, 47, jusqu'en 50 et quelques, il y avait des baraques. La vie était agréable. Ils avaient leur petit jardin. Et où se levait le point, il y avait le point du jour et le polygone Butte. Ah, je parlais, on a une âme. Nous, les Marsouins, la coloniale, non. C'était ici où résidait un régiment d'artillerie de marine, plus bas. Oui, là où il y avait une école, un collège, à l'entrée du Valley Ear. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, qu'il y avait également une rivalité entre le maire de Kerber et le maire de Bresse, Victor Rezin contre Victor Le Gorgeux. Oui, si bien que, ayant pris ces distances, Le Gorgeux a été évincé par le gouvernement du maréchal Pétain et, sautant sous l'occasion, Victor Rezin devient le président de la communauté qui remplaçait le maire de Brest. Cette communauté, le maire Eusin, qui était maire de Saint-Pierre et président de la communauté, va périr dans l'accident terrible de l'abri Sadi Carnot. Par contre, son rival, officier de la marine, médecin, va avoir une carrière brillante. Et il sera préfet de région ou, si vous voulez, commissaire de la République. Et il orientera les travaux pour restaurer, dans un premier temps, faire dégager les ruines de la ville, dans un deuxième temps, de voir l'aménagement possible dans les baraques. Je disais tout à l'heure que c'était au Bougain qu'il y avait le plus de baraques, mais ici, il y avait le point du jour orienté à est ou ouest, et il y avait le polygone. Voilà. J'en aurai terminé dans quelques instants. Je vais demander à mon frère si j'ai omis de dire quelque chose. Je disais que ça a servi, ce polygone a servi actuellement aux promenades et également ça a servi à l'aviation débutante par les meetings aériens en 1912 et par le Maurice Schall qui effectua le Paris-Brest-Paris par avion.
Non, t'as pas oublié grand-chose, à part que maintenant, on n'est plus au polygone. On va traverser la vieille route de Recouvrance à Guilherme. Il s'appelle maintenant la rue de Voirpit. Voilà, à Kérébaison. Voilà. Le village où il fait bon vivre. Alors, Voirpit, c'est, je vois même pas dehors. Alors, on avait une pancarte hier, à travers la vitre, on voit tout. Non, aujourd'hui, on voit pas. Alors, Warpit, c'était le cuirassé anglais qui a bombardé pendant la guerre le fort de Montbarré et le fort de Quéranrou. Alors ici, je vois pas où c'est qu'on est, mais autrefois, c'était la venelle des pendus. Ah ouais, puisqu'on dépendait d'une seigneurie du Châtel. La seigneurie du Châtel, dont l'un des plus célèbres fut le fameux Tanguy du Châtel. Et naturellement, la duchesse de Kerwal, qui était l'amante de Charles II d'Angleterre, comme tout le monde le sait naturellement. Alors, c'est bel et bien ici le lycée du Puy de l'Homme. J'attends en face le lycée du Puy de la Femme. Ça viendra un jour. Alors, du Puy de l'Homme, qui c'était un ingénieur polytechnicien, breton naturellement, avec le nom qu'il a, c'est bizarre d'ailleurs. Bon, donc, il était né au siècle de 19e siècle, le siècle des révolutions techniques, à savoir, on passait de la marine à voile à la marine à vapeur, et de la propulsion du vent par la propulsion à hélice. C'est lui qui fit lancer le premier bateau, le Napoléon, Marcel, à hélice. Et puis surtout, Marcel connaît beaucoup de choses, mais il en oublie autant. Et ce qui veut dire que le Napoléon, c'était quand même un bateau en bois recouvert de tôle. Il n'était pas tout hybride, hybride. Par contre, il fit après la gloire carrément en tôle, la coque. Ah oui, mais manque de peau, ils l'ont construit à Toulon. Il n'était pas aussi bon que les ouvriers de l'Arsenal. Hein. Ah, moi je suis un ancien de l'Arsenal, ça c'est sûr. J'ai fait 40 ans de présence là. Je vous signale que j'ai parlé de présence. Hein. Bon, ok, donc je ne sais plus où c'est qu'on est. On arrive ici bientôt au Capucin. Et là, je dois prendre la... On descend
ou...
On va descendre au Capucin, j'ai plein de choses à vous dire là. Et vous chantez aussi, surtout, « Et apprenti des constructions navales ». Il y a des anciens arsenals là. La beau et le bon vin. Eh, bon vin. Est-ce qu'il y a des apprentis de l'arsenal? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Ils sont tous morts, il n'y a que moi. Moi et ma grande gueule. Bon, on descend. On descend. Là, je vais vous raconter les Capucins. Et on prendra le suivant.
Bravo, merci.
Où est mon pépin,
moi? J'ai tout là, j'ai la...
J'ai des fa... j'ai des facilitateurs avec moi, c'est magnifique. Alors les Capucins, c'est ni plus ni moins que le plateau qu'on voit pas malheureusement et qui est là derrière. Alors qu'est-ce qu'il y avait aux Capucins? Eh bien, effectivement, un couvent de Capucins. Capucins, comme tout le monde le sait, ça vient de capuche. Vous étiez au courant? Ah, ils sont au courant. Oh là là, je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je parle. Donc,
alors
là-bas, ils sont... ouais. Alors, les Capucins, le couvent a été inauguré en 1695, comme tout le monde le sait. Par qui? Par Vauban. Celui qui n'a pas fait les remparts de recouvrance, d'ailleurs, puisque c'est Massiac de Sainte-Colombe. Ouais, mais parfois, c'est les chefs qui la gloire des petits. Enfin, il a signé, hein. Ouais, c'est lui, donc. Alors, pourquoi, donc, les Capucins, aujourd'hui? Bah, parce que on a gardé trois grands bâtiments qui ont été tous construits entre 1845 et 1664. Retenez bien la date. Et menu du Ménil. Oui, mais enfin... Alors, pourquoi cette date-là? Parce qu'elle correspond aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous étions dans la transition révolutionnaire des bâtiments, de la voile à la vapeur et, naturellement, des coques en bois aux coques en ferraille. Il fallait des chantiers nouveaux. Ces chantiers nouveaux ont été récupérés là, à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et aujourd'hui, dans les trois bâtiments qui ont été conservés, il y avait une forgerie, il y avait un atelier de mécanique, ben, il y avait un tour qui faisait des hélices sur 32 mètres, et puis il y avait surtout une chaudronnerie. Et un peu plus haut, eh ben, il y avait les apprentis de l'arsenal, que j'ai eu l'honneur d'y être en 1955. Et c'est là... Oui, c'est vieux, hein. Et c'est...
J'étais pas né.
Et c'est là que je chantais, naturellement, la chanson et apprenti des constructions navales. Bon, ça a été détruit, malheureusement, l'année dernière. Et là, donc, si vous voulez, il y a la transition, également, comme m'a dit mon frère, des défenses de Brest, dont on voit les vestiges derrière, c'est les restants des remparts de Quelliversan. Cela, c'est le prolongement dû à filer de la côte des remparts primitifs qui s'arrêtaient ici, au niveau du pont de l'Arteloir. Là, il y avait, pendant la guerre, le pont transbordeur.
Exact, qui venait de Bizerte.
Voilà, qui venait de Bizerte en plus, mais ils s'en foutent. Hein. Il faut le dire. Alors, là, c'est bel et bien là, il y a un avant-garde là-bas, il y avait une arrière-garde là, et donc l'arrière-garde était contrôlée par une tour noire à gauche, rive gauche, une tour blanche. Ici, il y a une chaîne qui fermait le port. Et naturellement, on a voulu agrandir le chenal, creuser la Pinfelle pour prendre plus d'espace, pour mettre plus de bateaux. Une vingtaine en particulier, donc il a fallu agrandir les constructions sur les hauteurs. Ça a été les remparts de Quélyverzan, dont on voit les vestiges encore, réhabilités en 2004. J'ai fait une pièce de théâtre là-dessus, si ça vous intéresse, je vous la transmettrai. Et de l'autre bord, ils ont fait les constructions du Bougain, donc pour fermer encore Brest. Et là, ils ont transféré l'arrière-garde plus haut, à savoir au niveau de Kervalon. Et là, Kervalon, il y avait aussi
une famille
qui ne voulait pas lâcher le morceau.
C'était des constructeurs.
Ouais, c'était un peu corsaire, amateur, voleur. Ouais. Corsaires, c'est des pirates autorisés, hein, vous êtes au courant. Ils armaient des bateaux pour attaquer d'autres. Et puis donc, ils ramenaient le butin et se les partageaient. Beaucoup pour l'armateur, beaucoup pour le capitaine et pas grand-chose pour le matelot. Voilà comment ça se passait. Donc ça, c'est la famille des Rioux-Carlé, qui était donc au départ des marchands de pinards.
Oui, oui.
Voilà.
Bon,
non, mais est-ce que vous avez des questions sur les Capucins? Parce que là, tout le monde parle des Capucins. Tu as lu mes écrits, donc ça va plus loin que simplement trois bâtiments qui ont été conservés pour faire de la musique et du historique sur le vieux Brest. Moi, j'ai connu des gens là, à la Forge en particulier, eh bien, ils n'ont pas fait de vieux os parce qu'ils respiraient des fumées bizarres. Qui ont fait que les pauvres malheureux, à 45 ans, leurs poumons étaient cuits comme s'ils avaient fumé 10 paquets par jour. Ça n'a même pas été reconnu comme maladie professionnelle. Par contre, quand Napoléon III est venu à Brest,
par voie maritime d'ailleurs, il est reparti par le train.
Voilà.
Bon, mais un arrêt à Guy Pavard.
Voilà, mais bon,
il était accompagné de l'impératrice
Eugénie de Montijo.
De Montijo.
Ah,
qui,
ouais.
Elle créa l'école des pupilles qui se trouve en Pinfel actuellement et également la maison des enfants, l'impératrice Eugénie.
Voilà,
qui
ouais.
vient de fermer ses portes.
Voilà. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je voulais parler.
Non.
C'était parce que.
Et le canot de l'empereur.
Napoléon Ier. Hein.
Napoléon
Ier. Ouais, mais ils l'ont fait passer pour le canot de l'empereur, Napoléon III. Il a été construit pour Napoléon Ier. Bon, l'histoire, ils savent pas, donc ils racontent ce qu'ils veulent. Alors, oui, naturellement, il a servi. Donc, ce que je voulais dire, tu vois, tu m'as coupé la parole, c'est que Napoléon III, donc, on lui a fait le tapis rouge. Il est donc venu visiter les Capucins. Et devant lui, on a fait le coulage en bronze d'une hélice. Puisqu'on dit, voilà, comment aujourd'hui on fabrique le matériel nouveau pour votre marine impériale. D'ailleurs, je signale que le vieux pont, là...
était le pont impérial.
Ouais,
par le même bolard.
Voilà, et après, comme il est tombé, c'est le même pont est resté, il est devenu pont national. Ça change de nom, quoi. Hein. Mais c'est le...
C'était un pont tournant. Et après,
comme les girouettes que je connais qui tournent souvent, Marcel. Bon, alors, oui. Oh là, qu'est-ce que c'est ? T'es embêtant, Marcel, quand je parle. Bon, c'est pas grave. Alors, là également. Eh bien, comme ils voulaient être bien vus, tous ces courtisans-là et ces admiraux, ils l'ont même fait assister un peu plus loin à l'explosion d'une bombe, je ne sais plus de combien de tonnes, ça valait pas Hiroshima, naturellement, pour faire détruire le rocher du Salou. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils ont fait les bassins sous le pont de l'Arteloire, là, un peu plus haut, il y a trois bassins. En gros, il y en a une dizaine en tout. À la Ninon, c'est le bassin 8 et 9.
Oui.
Et au bassin 10, parce qu'il y en a 10, c'est celui qui a été construit à peu près une trentaine d'années pour accueillir nos grands sous-marins nucléaires. Bassin qui est maintenant obsolète. Tout a travaillé, le sol avec. Donc on n'y va plus. Voilà. Par contre, les bassins 8 et 9... Elle n'a pas été construite là, au bassin 10. Par contre, les bassins 8 et 9 de la Ninon, ça c'est du bon, c'est du pur, parce que c'est fait en pierre de la mer Ildut. Ah, donc on a... Ah non, alors quelqu'un a osé dire. a osé dire en regardant l'église la nouvelle église Saint-Louis. Voilà la belle pierre de la Bérilduth. Là, oui, c'est la pierre de Logona. Donc les gens racontent ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Ils écrivent. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le livre, dans le côté Brest, hein, que, que c'est Vauban qui a lancé la construction des bastions qui entourent Brest, à savoir le Porzic, Montbarret, Quéranrou, Castelbras, Pinfel. Le pauvre Vauban était mort en 1707, ils l'ont oublié, et ses forts ont été construits 70 à 80 ans après par un certain Carlé de la Rosière. Bon, personne n'a oublié, tout le monde a oublié, il n'a pas un nom. Alors je reviens donc à ces grands hommes qui ont construit Brest. Massiac de Sainte-Colombe, tout le monde s'en fout, c'est lui. Et puis Carlé de la Rosière, qui vraiment était aussi un grand architecte. Et sans le CI de Vergennes et de Dumouriez, qui a fini très mal d'ailleurs, puisqu'il a trahi la Révolution, il est mort en Angleterre. Voilà, il n'est jamais revenu. Voilà, Jean-François de Lamarche. Voilà, donc, mais en gros, comme les gens ne connaissent pas leur histoire, les journaux peuvent raconter n'importe quoi et peuvent déformer n'importe quoi. Ils racontent même que le fort du Castelbras surplombe la vallée de l'Allégouette. Qu'est-ce que c'est l'Allégouette? Ils n'ont encore rien compris. C'est un affluent de la Bérilduth qui aurait été détourné pour grossir le flot de l'étang artificiel de la Villeneuve. Oui, il y a un ruisseau qui a été détourné, mais c'est le Quatennens et non l'Allégouette. Alors, qui revise. Et surtout, je vous préconise de lire Prosper Levaux. Voilà, si, ouais, 5 ou 6. Ouais, il y a même plus que ça. Voilà, voilà. Bon, alors si vous avez des questions, parce que là, on aurait pu le prendre maintenant, il commence à avoir soif. Donc, posez des questions. Moi, je suis un amoureux, passionné d'histoire, mais surtout de vérité. Rendons à César ce qu'il y a à César. Et trop souvent, les grands de ce monde se sont attribués le travail de leur collaborateurs, et ça c'est grave pour moi.
Bon, merci. Voilà. Merci, 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 merci.